Oui, je le sens un peu et honnêtement, c'est un peu malgré moi parce que dans le sens où bah, moi je suis une personne militante et je le suis dans ma vie personnelle et oui, forcément, mes textes parlent de ces questions-là à des moments et donc on peut me classifier, enfin, on peut dire voilà, je suis militante, mais c'est difficile de dire porte-parole, je sais pas, c'est compliqué de se positionner comme ça. Moi, je sais pas si je serais très à l'aise à l'idée de dire que je le suis. Je pense que des personnes m'attribuent ce rôle et dont des personnes des communautés que j'essaie de représenter et dont, enfin, ouais, pour lesquelles j'essaie de parler, mais moi, je le fais entièrement par mon vécu personnel. Et donc, je sais, par exemple, s'il y a un plateau télé et qu'il y a entre guillemets des débats ou des discours sur ces questions-là, je suis pas sûre que ce soit moi la meilleure personne à envoyer à ce moment-là. Par contre, s'il y a un concert ou un événement sur ce sujet, là oui, me mettre sur la prod, ça a son sens, la prog, ça a son sens. Mais c'est une question que je me pose, bah, même en ce moment, assez souvent, de moi, ma place dans le paysage, on va dire, politique actuel. Et du fait que mon existence soit politisée, ben voilà, malgré moi aussi. Mais moi, c'est sûr que j'ai envie de montrer qu'on existe et qu'on existe fièrement. Et donc, si ça, c'est être porte-parole du mouvement, donc dans ce sens-là, oui, je le suis, je pense.
Alors, on poursuit avec un titre extrait de ton EP Earth Choices. Alors, il s'appelle Big Dreams. Il t'est venu comment ce titre?
Il m'est venu parce que je commençais à écrire des textes un peu en mode ah voilà, j'ai des gros rêves, mais bon, comment les réaliser sans passer, enfin, sans être une personne totalement imbue d'elle-même qui en plus fait n'importe quoi dans ses choix éthiques et avec ses choix pro. Et donc, j'ai voulu raconter ça. Et donc, voilà, Big Dream, ça se traduit par grand rêve. Et donc, c'est un peu l'idée d'avoir des grands rêves, mais bon, être un peu, enfin, se souvenir qu'on vient d'une cambrousse normande paumée et qu'on est un peu personne quand même, et que c'est important de le rappeler aussi.
Merci à toi, Maddy. J'ai passé un très très bon moment dans ce direct.
Et merci beaucoup, Laurent, de l'accueil.
Cino è ne surdo cosimo, ma è tarantella tu, de nime limoni me n'ha mai. E per ta sto cora fai monna scazzo, per ta sto cora fai monna scazzo. I vriga ne accozzuna, i vriga ne accozzuna, i vriga ne accozzuna, na pente voglia, na pente voglia, na pente voglia, i vriga ne accozzuna, na pente voglia. Usirno mannaretta non è sfazzo, usirno mannaretta non è sfazzo. C'è bigo magherai, c'è bigo magherai, c'è bigo magherai, non è scorcezzo, non è scorcezzo, non è scorcezzo. C'è bigo magherai, non è scorcezzo. Na preolio, preolio, preola.
E ama me bella, non me abbandona.
Na preolio, preolio, preola.
E ama me bella, non me abbandona.
cardia, caso cito di cardia, c'è quegni yema, c'è quegni yema, c'è quegni yema, caso cito di cardia, c'è quegni yema.
Formation italienne Canzoniere Greca Nico Salentino, j'ai essayé de bien le dire parce que je suis un petit peu italien quand même, avec le titre Pizzica di Cosmino, cet extrait d'un dernier album Il Mito que je vous conseille bien évidemment.
Bien, dans la chronique de l'AC aujourd'hui, je vais vous parler d'Afanador, la dernière création du Ballet National d'Espagne, qui après un passage par le Théâtre National de Nice en novembre ou encore par le Grand Théâtre du Jeu de Paume d'Aix en Provence en décembre dernier, est accueilli au Théâtre du Châtelet du 27 mars au 2 avril. Depuis 2019, la compagnie est dirigée par Ruben Olmo, un artiste profondément attaché à l'équilibre entre fidélité aux racines et audace contemporaine, et Afanador est l'un des exemples les plus éclatants de cette dynamique. Chorégraphié par Marcos Moro, avant de vous parler de la pièce Afanador, j'ai envie de vous dire qu'il semble aujourd'hui impossible de passer à côté de ce chorégraphe espagnol qui est partout. Ce printemps, on le retrouve sur toutes les scènes. Il crée une nouvelle pièce, étude, pour le Ballet de l'Opéra de Paris, pendant que son grand spectacle Afanador fait vibrer le Châtelet et termine sa tournée. Et ce n'est pas fini. D'ici l'été, son travail voyagera encore, du Ballet du Grand Théâtre de Genève à Berlin, en passant par Bruges. Alors, simple effet de mode ou véritable engouement pour son sens unique de la théâtralité et de la composition visuelle ? Sans doute un peu des deux. Amoureux du mouvement, Moreau vient de la photo, de la dramaturgie, de la chorégraphie. Il assemble des gestes comme d'autres assemblent des images. Il ne cherche pas seulement à faire danser, il raconte, il compose, il crée des visions. Alors préparez-vous, oui, avec lui, le vertige n'est jamais très loin. Afanador est donc un spectacle à la croisée de la danse, de la photographie et du rêve, un spectacle qui véritablement ne se regarde pas seulement mais se traverse. Le Ballet National d'Espagne, fondé en 1978 sous l'impulsion du légendaire Antonio Gades, est une compagnie qui porte depuis près d'un demi-siècle la responsabilité de préserver, transmettre et réinventer le patrimoine chorégraphique espagnol. Danse académique, danse stylisée, folklore, boléra, flamenco, c'est toute la richesse de ces traditions qui vit à travers ses interprètes. Le spectacle Afanador, quant à lui, rend hommage au photographe colombien Ruben Afanador, connu pour ses collaborations avec de grands magazines comme Vogue ou Vanity Fair, mais aussi et surtout pour son regard singulier sur le flamenco. Dans ses recueils Mil Besos et Entre el Ritano, Afanador capture des corps en tension, des regards habités, des silhouettes puissantes, souvent en noir et blanc. Un flamenco non pas documentaire, mais fantasmé, sensuel et parfois irréel. C'est cet univers que le chorégraphe Marcos Moro a choisi de transposer sur scène, et non pas en l'illustrant, mais en l'interrogeant. Il est parti d'une question très simple et presque vertigineuse. Comment saisir la vie quand elle échappe par nature à toute tentative de capture ? Dans Afanador, Moreau imagine la scène comme une sorte de pellicule vivante. Là où la photographie fige, la danse remet en mouvement. Là où l'image arrête le temps, le corps affirme son instabilité, sa vibration, sa fragilité. Chaque tableau semble surgir d'une photo, des contrastes de noir et blanc, des éclairages incisifs, des corps sculptés par l'ombre, les poses figées qui se défont en un souffle, les flashs qui viennent effacer l'instant pour en créer un autre. Ce qui frappe aussi dans Afanador, c'est la démarche de Moro. Il ne cherche pas à représenter l'Espagne telle qu'elle est, ni même telle qu'on croit la connaître, il en invente une nouvelle, une Espagne traversée de symboles. La tauromachie, la religion, le désir, mais comme vu avec un objectif déformant, onirique et presque surréaliste. Une Espagne où les frontières se brouillent entre masculin et féminin, entre tradition et modernité, entre ce qui est familier et ce qui devient soudain étrangement méconnaissable. Les costumes circulent d'un danseur à l'autre, les silhouettes se confondent, le genre devient fluide, le corps devient matière de métamorphose. Sur scène, ce sont 40 danseurs et danseuses du Ballet National de España, accompagnés d'un chanteur et de deux guitaristes. Leur polyvalence est saisissante. Ils passent du langage académique aux traditions flamencas, du boléro aux formes contemporaines avec une maîtrise totale. Et cette virtuosité permet à Moro de déconstruire les codes tout en restant profondément ancré dans une mémoire collective du flamenco. Pendant 90 minutes, les tableaux s'enchaînent. Solo électrique, les corps qui s'affrontent, de grands ensembles réglés avec une précision photographique. Chaque geste et chaque claquement, chaque suspension semble résonner dans tout le corps du public. Afanador n'est donc pas un spectacle narratif, il n'y a pas d'intrigue à suivre ou de personnages à interpréter. Ce que propose Moro, c'est une traversée sensorielle, une succession d'images qui touche plus qu'elle ne se laisse expliquer. Comme au cinéma d'art ou dans un rêve, ce sont les sensations qui nous guident. Le spectateur est invité à abandonner l'idée de comprendre pour simplement se laisser imprégner par la lumière, par les corps, par le son, par les contrastes. C'est une œuvre qui continue de vibrer longtemps après la dernière note. En somme, c'est à la fois un hommage à un photographe visionnaire, une relecture audacieuse et queer du flamenco, une invitation à sentir plus qu'à interpréter et une démonstration éclatante de la puissance du Ballet National de España. On en ressort avec une impression étrange et magnifique que même si la danse comme la photographie ne parviennent jamais à capturer la vie telle qu'elle est, elles peuvent en révéler la beauté insaisissable, cette beauté qui glisse entre les doigts mais qui marque profondément. Alors si vous avez raté le spectacle au théâtre de Chaillot, vous pouvez le retrouver sur VK Vidéo, VK.com, dans la version filmée par Arte Concert en 2024. Et vous pouvez bien sûr retrouver le travail de Marcos Moro ce printemps en suivant le ballet de l'Opéra de Paris.
Et le coup de cœur pour cette émission, c'est un livre signé Pierre Lemarchand. Alors en quelques mots, je vais vous résumer le parcours du garçon parallèlement à son activité professionnelle de rédacteur dans une association humanitaire. Il est journaliste spécialisé dans la musique. On lui doit des interviews, des portraits, des chroniques. Vous pouvez le lire dans différents magazines, dont la revue Pop Moderne Magique, Persona ou encore Novo. Et on peut aussi le retrouver dans le journal Libération, notamment il avait fait une très très belle interview de Marianne Faithfull. Au printemps 2025, il a publié aux éditions Mediapop « La vie entre les disques ». Cet ouvrage, le dernier en date de son auteur, est un recueil d'interviews de musiciennes et musiciens réalisés entre 2015 et 2024, dans lequel il retrace le rapport intime de ces artistes à la musique. Parmi les interviewés, on peut citer Dominica, Stewart Staples, du groupe anglais Tindersticks, Rodolphe Burger, Pete Doherty, qui vient en Normandie maintenant, Shannon Wright, Coco Rosie, donc Faithfull que je viens de citer, puis Aleyla Diane. Alors dans ce livre, je tenais aussi à préciser que dans ce livre, il y a une proportion de femmes interviewées plus importante que la proportion d'hommes, alors que le milieu de la musique a toujours été dominé par le genre masculin. Alors pour entrer dans l'univers de l'auteur et de son œuvre, je vous propose une lecture par ses soins du texte qu'il a rédigé en introduction à ses échanges avec Aleyla Diane, suivi du titre All in Wind de l'américaine.
Je me souviens de la tendresse de ce moment. Je rencontre Aleyla Diane à Paris, rue Sainte-Anne, le 18 octobre 2022, dans les bureaux de son attachée de presse en France, Cécile Legros. Cette dernière nous dirige vers un vaste salon en sous-sol. Une tasse de thé pour Aleyla, un café serré pour moi, un long regard échangé sans gêne. Il émane de l'américaine une grande douceur, mais aussi une détermination, une force. Looking Glass, comme l'était Cusp 5 ans auparavant, est un album dans lequel l'écriture et les arrangements somptueux, empreints d'un certain classicisme, éloigné du folk roots de ses débuts, se confrontent aux blessures du monde. Du folk, Alela poursuit l'attention portée à la terre et à son histoire, à la voix de celles et ceux qui souffrent et dont la souffrance est tue. Du folk, Alela croit en la grandeur, la puissance de transfiguration de nos destinées modestes, la noblesse de l'artisanat. Notre conversation roule inévitablement sur les méga-feux qui ont meurtri les terres d'Alela, lui inspirant Howling Wind. Elle nous ramène aux petites Eylan, dont le corps sans vie s'était échoué à la fin de l'été 2015 sur un rivage turc de la mer Égée, si loin de chez lui, en Syrie, son pays que sa famille et lui avaient dû fuir, espérant échapper à la mort. Nous avions déjà parlé en 2018 du petit garçon dont l'histoire avait bouleversé Alela et l'avait mené à l'écriture d'une de ses plus belles chansons, Émigrée. Son évocation de la création de Looking Glass ne se départira jamais de la lumière cruelle de ses incendies ainsi que du fantôme solitaire du garçonnet, de la rumeur d'un monde qui court, aveuglé, dans les ténèbres qu'il a lui-même tissées. De la silhouette menue d'Alela Diane, de sa voix posée et douce, ne cesseront jamais de transparaître une nervosité, une tristesse sourde, quelque chose du malheur du monde coincé au fond de la gorge. Alela Diane est une musicienne, elle est aussi une mère et une citoyenne, et son art recueille tout cela. En un geste ample et généreux, une brassée de chansons qui, depuis ses tout débuts, en 2006, jusqu'à ce sixième album, pour lequel nous nous rencontrons, ont façonné une œuvre profondément originale. Je n'oublierai jamais la tendresse de ce moment.
Vous venez d'entendre à l'instant Alling Wind de la chanteuse et musicienne Aléla Diane. Et puis juste avant, c'était une lecture par Pierre Lemarchand du texte qu'il a rédigé pour introduire son échange avec elle. Cet extrait de son livre La vie entre les disques, paru chez Mediapop en 2025.
Et puis pour terminer, comme dans chaque émission, nous revenons sur les rendez-vous à ne pas manquer. Donc je vous rappelle, le 29 avril à la médiathèque Roland Plaisance de 14h à 18h, le Club Culture Asie, pour découvrir les mangas, la K-pop, la sélection des jeunes lycéens. Le 22 avril à 16h30, toujours à la médiathèque Roland Plaisance, la projection de la série Samuel, déjà diffusée sur Arte, qui a rencontré un grand succès, donc les épisodes 12 à 21, la suite un petit peu plus tard aux vacances suivantes. Et puis le 15 avril à 10h30, pour les plus petits, la projection de Paddington au Pérou. Et je vous souhaite de bonnes vacances de printemps avec nos programmations.
Merci de votre écoute, bonnes vacances, à dans un mois.
Au revoir.
Au revoir.
On la taille, on la formate, on la mixe, on la compresse, on la copie, copie sur CD. Une fois qu'elle est pieds et poings liés, on la code barre, elle a beau hurler, mais il est déjà trop tard. On l'a renvoyée aussitôt, chez le producteur qui l'attend dans son bureau. Là on la briefing, on la brainstorming, on la training, on la buzz, on la marketing. On l'envoie sur le trottoir, au préco, au turbin, en radio, sur le net et sur le réseau hertien. Là on la pub, on la coupe, on la pirate, on la traîne, on la boucle, on la boucle, on la boucle, on la boucle. On la playlist, on se la file au midem. Une fois terminé le premier tour de piste, on l'envoie tapiner dans les magasins de disques. On la classe, on la parque dans un bac, on la casse, broadcast, on la sonne, on se la repasse. Quand elle a fait du chiffre, apporté du brousouf, direction, grande distrib, bah au champ et carouf. Mais c'est pas fini car le succès s'installe. On lui prévoit une carrière internationale. On la remixe, on la popise, on l'hypopise, on l'isine, on la sonnerie de portabilise. Et comme c'est qu'une chanson, on la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour où, démodée, vieille, elle passe aux oubliettes, finie à la poubelle. Elle a beau hurler, au secours, j'suis une belle chanson d'amour, mon auteur vient l'absorber un jour, mais l'auteur, c'est pas de sa faute, on a déjà écrit une autre.
La ville est belle, sa terre est ferme, et nous visons à vivre heureux, à vivre à deux, à vivre mieux. Jamais l'heure ne dure.